Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Locaux du Bio. C'est le retour de votre rendez-vous mensuel en partenariat avec la Biocoop Le Grenier. À mes côtés, Camille Danel, chargée de communication de la Biocoop Le Grenier à Gap. Bonjour Camille.
Bonjour.
Et avec nous également, comme dans chaque épisode, un invité ou plutôt une invitée se joint à nous. Et pour cet épisode, c'est Anne-Cécile Perronel. Anne-Cécile, bonjour.
Bonjour.
Tu es fondatrice de Pasta Durance et tu es également diététicienne. Avec nous aujourd'hui, on va donc ensemble parler de l'ultra-transformation des aliments. On va commencer par définir ensemble ce que c'est. On va parler des effets sur la santé et sur l'environnement que l'ultra-transformation implique. Et puis, après tous ces constats, on abordera, pour terminer l'émission, les solutions qui peuvent être mises en place aussi bien chez les consommateurs pour reconnaître les produits et les limiter que chez les distributeurs, avec toi Camille. Alors, avant toute chose, quand même, Anne-Cécile, j'aimerais te demander si tu veux bien te présenter en quelques mots.
Oui, donc je m'appelle Anne-Cécile Perronel. En effet, je suis diététicienne nutritionniste, spécialisée quand même en micronutrition pour les sportifs, mais pas que. Et donc, il y a 3 ans et demi, je me suis lancée dans la folle aventure de créer mon entreprise de fabrication de pâtes sèches et bio. Donc, vers Sisteron, à 5 km de Sisteron, sur la commune de Valerne. Voilà. Mmh. Je me suis lancée en tant que diététicienne, pour faire écho au thème d'aujourd'hui, parce que je me suis beaucoup posé de questions en tant que maman d'un enfant de 6 mois lors de la diversification alimentaire. Ça me paraissait tellement être un casse-tête que voilà, ça m'a donné cette idée de reprendre mes études pour être diététicienne.
Et donc, c'est Pasta Durance, donc cette entreprise de pâtes sèches que tu as fondée. Quand est-ce que ça a été fondé exactement ?
En 2021.
Donc, c'est une histoire assez récente.
Oui, c'est assez récent. 2 ans auparavant, j'avais obtenu mon diplôme de diététicienne. Avant, j'étais formatrice dans l'enseignement agricole. Et voilà, donc c'est vrai que c'est encore récent. Et à la fois, c'est tellement une aventure qu'il s'est passé tellement de choses en 3 ans.
Voilà. Et on pourra y revenir, mais bien sûr, les pâtes sèches, ça veut dire transformation. Donc, on pourra
tout à fait
revenir sur le sujet ensemble. Et donc, je le disais tout à l'heure, pour commencer, est-ce qu'on peut définir ensemble qu'est-ce que c'est exactement l'ultra-transformation ? Ça peut sembler un peu flou parfois.
Oui, alors tout à fait. Donc, les aliments ultra-transformés, pour donner une définition, ce sont des produits alimentaires créés principalement à partir d'ingrédients issus de procédés industriels, hein, c'est vraiment ce qui est important, avec très peu ou pas d'ingrédients, alors non pas naturels, mais on va dire plutôt des ingrédients bruts. En fait, ce sont souvent des préparations alimentaires emballées, prêtes à l'emploi, attrayantes, présentées comme pratiques, rapides à consommer et bien souvent économiques. C'est par exemple le cas des charcuteries avec nitrites, des nuggets de poulet, des bâtons de poisson, tout ce qui est, bien entendu, biscuits, gâteaux industriels, les pains de mie, les boissons gazeuses type soda, les bonbons, bien évidemment. On se rend compte que finalement, ce sont quand même bien souvent les enfants qui sont visés, hein, donc on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, ces aliments, ils sont quand même assez éloignés de la matière première dont ils sont issus, hein, puisque leur préparation nécessite d'importantes transformations physiques, chimiques, biologiques, obtenues par différents procédés, ainsi que, et ça c'est important également, l'ajout d'additifs ou de substances de type émulsifiant, exhausteur de goût, encore antioxydants, dont le but c'est exacerber, modifier à la fois la texture, le goût et la durée de conservation. Petite parenthèse sur les additifs, hein, faut savoir qu'en Europe, il y a plus de 300 additifs autorisés, dont près d'un quart serait quand même nocif pour la santé. Et en moyenne, dans les produits ultra transformés, dans les aliments ultra transformés, en moyenne, on trouve une dizaine d'additifs aujourd'hui. Alors dans le bio, hein, Camille, peut-être on pourra en parler davantage. Les additifs autorisés sont plus au nombre de 50 à préciser, hein, et c'est vrai qu'en moyenne, on en retrouve beaucoup moins. Alors, c'est intéressant de classer les aliments. On verra que ça existe, hein, ces classements-là, selon leur degré de transformation. Si on prend l'exemple de ce qui m'intéresse aussi moi en tant que pastière, le blé. Donc le grain de blé, il va être fractionné. À partir d'un grain de blé, on va en obtenir de la farine, du son. On va également récupérer le germe. Et puis, on va transformer donc, en pâte, en pain. Ça, ce sont des aliments qui sont transformés. Mais également, à partir de ce grain de blé, on va extraire également de l'amidon, puis du sirop de glucose, de l'amidon modifié. Et ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les aliments ultra-transformés.
En t'écoutant définir l'ultra-transformation, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre du chimique qui revient assez souvent.
Oui, tout à fait. Hein. C'est en effet une combinaison de beaucoup de transformations chimiques qu'on appelle aussi le cracking. Hein. Du coup, ces transformations successives, en fait, c'est vraiment ça. Et finalement, si on prend chaque ingrédient isolé, il n'est pas forcément nocif, hein, à part, bon, il existe une liste rouge hein, d'additifs, par exemple, en l'occurrence, hein, mais ce qui est le plus dangereux, c'est finalement l'effet cocktail de ces combinaisons.
C'est l'addition des additifs, finalement, si on veut.
Exactement. C'est l'addition, c'est la recombinaison de toutes ces substances qui sont issues de ces fragmentations diverses, qui sont ajoutées à d'autres ingrédients pour en faire des produits, comme on a évoqué un peu plus tôt. Et en fait, il faut se dire que de toutes ces substances-là, hein, ces additifs, dont on ne connaît pas forcément le nom, ce n'est pas des aliments, des ingrédients qu'on a dans nos placards, hein, ni dans nos cuisines. Hein. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui essaient de connaître les effets réels sur notre santé, ça c'est évident.
Et ça, c'est un sujet relativement nouveau ou est-ce que c'est ancré depuis longtemps? Peut-être, Camille, tu peux rebondir dessus éventuellement.
Eh bien, c'est un sujet qui est quand même relativement récent puisque c'est depuis après la Seconde Guerre mondiale, suite à la dernière révolution industrielle, que l'agroalimentaire s'est développé. Et c'est suite à ça qu'il y a eu vraiment une explosion des produits ultra transformés. Et c'est devenu la norme dans nos supermarchés, en France en tout cas, à partir des années 80. Donc aujourd'hui, par exemple, en France, il y a plus de 70% des références dans les rayons du supermarché, de l'hypermarché, de produits conventionnels, donc de l'agriculture conventionnelle, donc non bio, qui sont des produits ultra transformés. Et ça touche aussi les rayons bio, puisque ça représente plus de 50% des rayons bio, vu que pareil, vu que le bio se généralise, c'est aussi des industriels qui prennent la main sur les produits transformés et qui utilisent donc des ingrédients ultra transformés. Même si, comme l'a dit Anne-Cécile, il y a plus de restrictions en bio qu'en non bio.
Le bio est également concerné par l'ultra-transformation, malgré la limitation peut-être comparativement à du plus traditionnel, entre guillemets.
Oui, exactement. Notamment, ce qui peut tromper les consommateurs, c'est quand on voit sur un emballage du fructose, on peut se dire « Ah, bah c'est chouette, c'est du sucre issu du fruit », sauf que ça a été tellement transformé, le sucre a été extrait, les atomes ont été vraiment modifiés, au point où l'ADN même des produits issus du fruit ont été tellement modifiés que ça n'a plus aucune valeur nutritive, comme si on croquait dans une pomme, par exemple. Donc le fructose, qui est souvent issu de la pomme, même s'il est bio, il n'a plus aucune valeur nutritionnelle et notre corps ne le comprend pas. Il pense que c'est du sucre, point barre, quoi. Et il peut être même beaucoup plus nocif que du sucre brut, non raffiné, du sucre de canne classique. Donc voilà, il faut vraiment se méfier de ça parce que ça, c'est autorisé en bio. Et même si c'est issu d'un fruit bio, ça ne veut pas dire que c'est bon pour la santé. Au contraire.
Justement, comme tu le dis, si notre corps ne comprend pas, peut-être qu'il n'arrive pas spécialement à le traiter. Et Anne-Cécile, tu parlais d'études. Est-ce que c'est quelque chose de récent, ces études-là? Ou est-ce que ça date aussi peut-être de l'arrivée de l'ultra-transformation?
Je sais qu'il y a pas mal d'études qui sont parties en 2008 d'une observation faite par des Brésiliens qui avaient vu le nombre de personnes obèses augmenter. Ils s'étaient beaucoup questionnés à ce sujet. Mais je n'ai pas les études en tête ni les chiffres, mais en tout cas, je sais que, en effet, c'est relativement récent, ça c'est évident, et je pense qu'on n'a pas fini de connaître tout sur ce sujet, notamment sur les effets sur la santé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on observe que ces produits-là, ils sont de plus en plus présents dans nos assiettes. avec des différences selon les pays, mais aussi selon les territoires. Hein. Nous, en France, on estime que ça représente 30% des apports caloriques des Français. Mais dans certains pays, on est à 50-60% aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, dont les habitudes alimentaires sont vraiment, vraiment différentes des nôtres. Ça explose. On dit qu'aujourd'hui, on devrait être plutôt dans un pourcentage de l'ordre de 15%. Donc, on est encore un peu loin du compte, hein. Quand même réduire de moitié ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc, il y a de quoi faire et il y a de la sensibilisation à faire, ça c'est évident.
Ce qu'on peut résumer là de ce qu'on vient de se dire déjà dans un premier temps, c'est que c'est quelque chose de très ancré dans notre consommation depuis à peu près les années 80 en France. Et malgré tout, on a encore assez peu de recul sur la consommation d'aliments ultra transformés, même si on a un premier aperçu sur les effets sur la santé. Et justement, est-ce qu'on peut détailler ensemble un petit peu quels sont ou quels peuvent être les effets sur la santé qui sont déjà identifiés dans la consommation d'aliments ultra transformés?
D'une part, on ne l'a pas trop dit, mais c'est vrai que tous ces aliments ultra transformés sont souvent des produits sucrés, gras, riches en sel. Donc déjà, ça apporte ce qu'on appelle des calories vides. C'est-à-dire que vous savez que en nutrition, on distingue les macronutriments des micronutriments. Donc les macronutriments, c'est les protéines, les lipides, les glucides. Ça, on en a besoin au quotidien et c'est qui vont générer des calories. Et donc les sucres, les acides gras, ça va générer ces calories-là. Mais on a également besoin d'un certain nombre de micronutriments qui sont nombreux et variés, mais qui sont les minéraux, les vitamines, les fibres, qui, eux, n'apportent pas de calories. Et ces aliments-là, en fait, ils vont nous apporter des calories, mais absolument pas de micronutriments. Et donc, le risque, c'est déjà d'une part de favoriser des carences nutritionnelles. Et d'autre part, bien évidemment, de par le sucre, les différents sucres qui sont ajoutés, qui sont parfois cachés sous des noms incompréhensibles, favoriser le surpoids, des maladies, des pathologies chroniques comme le diabète de type 2, l'obésité, mais également des maladies cardiovasculaires. On sait aussi que dans beaucoup d'additifs qui sont utilisés, il y a des dérivés du phosphore. Le phosphore en surconsommation, ça peut favoriser justement ces pathologies cardiovasculaires. On parle aussi beaucoup de liens entre la consommation de ces aliments et des pathologies plus de l'ordre psychologique, hein, des troubles du comportement, certaines dépressions. Et ça, on arrive davantage à l'expliquer aujourd'hui parce qu'on fait du lien aussi avec les effets de ces substances, notamment les additifs sur le microbiote intestinal. Vous savez ce que c'est que le microbiote, hein, c'est des milliards de bactéries qui peuplent nos intestins, qui jouent des rôles fondamentaux dans notre organisme, tant sur le système nerveux que digestif, que immunitaire. Et par exemple, certains additifs vont limiter l'adhésion des bonnes bactéries sur notre muqueuse colique et donc vont perturber l'équilibre qu'on appelle eubiose, hein, de notre microbiote. Aujourd'hui, ça par contre, on le sait, hein, une perturbation de notre microbiote a des conséquences notables sur ces pathologies que j'ai évoquées précédemment.
Y compris du coup sur les pathologies plus mentales et pas seulement physiques.
Oui. C'est encore autre chose, mais c'est vrai que microbiote et dépression, microbiote et troubles du comportement, il y a beaucoup de liens qui se font aujourd'hui.
Ça a un effet, Camille, tu voulais rebondir?
Et bien, justement, le lien avait été prouvé entre le développement des maladies chroniques et la consommation de produits ultra transformés, puisqu'à partir de deux portions par jour, donc ce qui est conseillé, donc c'est 15% des apports caloriques par jour, donc deux portions d'aliments ultra transformés par jour, à partir de ça, on a un risque de développement de maladies chroniques. Donc, comme tu disais, l'obésité, le diabète, donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et on est tous concernés. Même si on le voit, nous, concrètement, dans d'autres pays qui sont plus impactés, comme les États-Unis, l'Angleterre, également beaucoup de pays d'Amérique latine, vu qu'ils sont beaucoup influencés par le régime alimentaire américain.
Et donc, on le disait, en plus, en t'écoutant, Camille, j'y repense, qu'il y a... Donc, c'est 15% de conseillers, d'apport calorique conseillés. Et en France, c'est toi, Anne-Cécile, qui le disais tout à l'heure, c'est plus de 30%, c'est 36% en apport calorique que les Français consomment en aliments ultra transformés. Donc, c'est plus du double, finalement, de ce qui est conseillé. Donc, les conséquences existent déjà. Et Anne-Cécile, tu le disais tout à l'heure, c'est beaucoup les enfants qui sont concernés. Qu'est-ce qui peut se passer pour les enfants? Est-ce qu'on a une idée des conséquences que ça peut avoir sur les enfants?
Alors, encore une fois, l'étude, non, je n'ai pas ça en tête. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que tout est fait pour que l'enfant s'habitue au goût, à la saveur, à la texture, qui est très éloignée d'un aliment brut. Et moi, ce que je pense sincèrement, c'est que du coup, au plus on les habitue à consommer ces produits-là, au plus ils ont du mal à revenir finalement vers des aliments bruts plus simples. Donc ça, c'est évident. Et puis tout est fait pour qu'on pousse à la consommation de ces produits-là, à la fois, comme je disais, dans le côté attractif, hein, le packaging. Puis il faut savoir que les enfants, aujourd'hui, ils passent des heures sur les écrans et qu'on leur envoie des publicités, des messages publicitaires. Donc, ils ont l'envie de consommer. Et donc, il y a non seulement cette habitude, cette attraction pour ces produits-là, mais il y a aussi l'effet sur la santé, hein, parce que du coup, ils s'habituent beaucoup plus au goût du sucre. Et donc, ils ont beaucoup moins de satiété. La sensation de satiété, elle est inhibée par la consommation des sucres. Donc, ils ont envie d'y retourner et d'en manger toujours un peu plus, que ce soit pour le sucré, pour le gras, etc. Donc, c'est vraiment une question de... C'est à nous, en tant que parents, de freiner et de limiter. Il ne faut pas dresser un tableau non plus trop noir. Hein. L'idée, ce n'est pas de dire il ne faut absolument pas en consommer ou en consommer va nous rendre malades. L'idée, c'est de dire faisons en sorte que ce soit de l'ordre de l'occasionnel, parce qu'on a tous des vies où on va vite, parce que les enfants ont envie de leur faire plaisir. Donc oui, un repas vite fait, oui, on fait plaisir aux enfants de temps en temps, mais... Le problème, c'est vraiment quand ça devient quelque chose d'habituel, qui est ancré dans nos habitudes de consommation.
Et ce qui est justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est déjà en partie le cas chez beaucoup de Français et encore plus dans d'autres pays, comme on le disait aux États-Unis ou au Royaume-Uni, par exemple. Avant de passer aux effets sur l'environnement, avec un peu plus avec toi Camille, je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Et en prenant contact, Anne-Cécile, tu m'as conseillé le titre Fake Plastic Trees de Radiohead. Est-ce que tu veux nous expliquer, avant qu'on l'écoute, pourquoi ?
Oui, alors bon, déjà, il faut savoir que je suis une grande nostalgique et Radiohead, c'est un groupe que j'ai beaucoup, beaucoup écouté quand j'étais adolescente, jeune adulte. Qui m'a vraiment touchée, c'était bon voilà pour diverses raisons, mais ce qui est intéressant, c'est que très rapidement j'ai compris qu'il avait aussi donc Thom Yorke en l'occurrence, hein, il exprimait pas mal de valeurs au travers de ses titres, et ça au plus j'avance, au plus je trouve ça intéressant aussi quand j'apprécie un artiste, un groupe, c'est de savoir qu'il y a des convictions derrière. Ça me semblait faire du lien avec la thématique d'aujourd'hui. Et en fait, dans ce morceau-là, si vous regardez le clip, on voit Thom Yorke qui est en train de déambuler dans un caddie de supermarché, dans des allées remplies de conserves de toutes les couleurs. Voilà. Donc, c'était le petit clin d'œil à la thématique du jour.
Donc, effectivement, ça fait sens. Alors, je vous propose qu'on écoute tout de suite. C'est donc Fake Plastic Trees de Radiohead.
Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man. Time for the rubber plants to get rid of itself. it wears me out. It wears me out. It wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be
C'était donc Radiohead et le titre Fake Plastic Trees. Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral dans votre émission Les Locaux du Bio. Je suis avec Camille Danel, chargée de communication de la Biocoop Le Grenier à Gap, et puis avec Anne-Cécile Perronel, fondatrice de Pasta Durance et diététicienne nutritionniste. Et on est ensemble pour parler d'aliments ultra transformés. Pendant cette pause musicale, on échangeait sur le fait que peut-être que les aliments ultra transformés sont assez difficilement restitués à travers le Nutri-Score.
Oui, en effet, c'est vrai que moi, c'est ce que je trouve un petit peu dommage hein, aujourd'hui, qu'on ait des difficultés à avoir des outils qui permettent de vraiment être sensible à tout ça. Le Nutri-Score, lui, il va juger la valeur nutritionnelle d'un produit avec des critères défavorables comme la teneur en sucre, notamment les sucres simples, les acides gras, notamment les acides gras saturés, la teneur en sel, etc. Et des critères plutôt favorables comme la teneur en fibres. Mais du coup, il ne va pas du tout juger le degré de transformation de ces produits-là. Moi, je suis allée dans une grande surface. Hein, j'ai pris une boîte de croquettes de poisson qui était évaluée A hein, par le Nutri-Score. Et finalement, en étudiant les ingrédients, il y avait plus de 13 substances ajoutées, dont 8 additifs. Et pour autant, tout en commun, on voit petite croquette de poisson, Nutri-Score A, bah, c'est bien, je vais manger quelque chose qui est bon pour ma santé. Et c'est pas forcément vrai, donc il faut quand même un peu pousser plus loin. Alors aujourd'hui, il y a un classement qui permet de distinguer justement les produits bruts des produits transformés, ultra transformés qu'on évoquait tout à l'heure avec l'exemple du grain de blé. C'est le classement Nova hein, et qui est repris alors par une application que j'ai découvert là récemment qui s'appelle Open Food Facts, qui prend en compte donc à la fois, je trouvais ça intéressant, le Nutri-Score, le degré de transformation de ces aliments, mais aussi l'impact environnemental de la production de cet aliment. Voilà, donc il y a quand même des choses qui existent, il faut farfouiller un petit peu. Voilà.
Donc l'application Open Food Facts qui a des ressources assez complètes finalement.
Oui, et on peut à la fois, donc, quand vous êtes dans une grande surface, scanner donc, le code barre, hein, ou à la fois, tout simplement, rechercher le produit. Et la liste est assez exhaustive. Si vous prenez un produit, après, il va vous comparer avec tous les autres de la même nature et pour pouvoir vous aiguiller sur des produits qui seraient mieux classés selon les 3 critères que j'ai nommés précédemment.
Par exemple, si on veut choisir une pâte à tartiner, savoir laquelle est meilleure, finalement, à choisir.
Exactement. Exactement. En partant de celle que vous avez l'intention de prendre, finalement, ça peut vous amener sur d'autres pistes.
On parlait également, pendant cette pause musicale, avant de parler de l'impact environnemental, on parlait aussi des contenus et des propositions fitness, entre guillemets, donc, qui sont souvent les aliments 0%, etc., qui ne sont pas tout à fait exacts non plus. Une boisson, un soda, va pouvoir avoir un apport calorique à zéro et pourtant être lui aussi assez mauvais pour la santé, Camille.
Exactement. Les produits light ont souvent un Nutri-Score qui est bien meilleur que les produits classiques. Mais pourtant, leur apport nutritionnel et nettement moins bon. Oui, c'est un peu trompeur pour les consommateurs qui veulent faire attention à leur poids, etc. Vu que la matrice originelle n'est pas assimilée, n'est pas comprise par notre corps, eh bien, les produits qui sont sans sucre et pourtant qui ont le même goût peuvent avoir des conséquences beaucoup plus néfastes sur notre corps. Donc, c'est assez trompeur et c'est assez généralisé. La plupart des produits light, c'est ce qu'ils proposent parce qu'ils ont quasiment le même goût. Mais pour avoir ce même goût, évidemment, il faut changer le goût sucré ou pour diminuer les calories, aussi le côté gras, faut le changer forcément par autre chose. Et qui a été ultra transformé, qui a un apport calorique de zéro, mais en fait, sur l'assimilation par notre corps, ça n'a plus rien à voir.
Donc effectivement, avoir de la vigilance là-dessus, Anne-Cécile.
Oui, c'est vrai aussi avec les allégations nutritionnelles. Hein. On voit des produits où il y a des allégations de type pauvre en sel ou riche en vitamine D, source de protéines. Si on se limite à ces allégations-là, on peut penser que c'est un produit vertueux, intéressant. Et puis encore une fois, quand on retourne l'emballage et qu'on lit la liste d'ingrédients, ben on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de substances et d'additifs ajoutés et que la liste peut être parfois très longue. Donc on a l'impression qu'on va bien faire parce que on nous dit qu'il faut avoir des apports en vitamine D au quotidien, par exemple, hein, si on prend cet exemple-là. Mais en fait, derrière, on va avoir un produit qui ne sera pas de bonne qualité et, comme tu disais, Camille, pas forcément bien assimilable par notre organisme.
Donc, on a bien compris l'enjeu au niveau santé que ça pouvait avoir. Et je disais tout à l'heure, on voulait aussi aborder ensemble les effets sur l'environnement de l'ultra-transformation, puisqu'on peut imaginer que ces procédés industriels ont des effets inévitables sur l'environnement, Camille.
Exactement, parce que les ingrédients qui sont issus du cracking, donc ça, c'est un des procédés industriels pour ultra-transformer des aliments. Ces ingrédients, c'est par exemple, on les a tous vus sur nos emballages de produits alimentaires, hein, ça peut être des sirops de glucose-fructose, des huiles raffinées, des protéines de soja, des nitrites, des arômes, etc. Eh bien, ils sont souvent issus de monocultures intensives, donc c'est-à-dire des cultures céréalières notamment, qui appauvrissent les sols et qui renforcent plutôt une perte de la biodiversité, puisque sur des hectares et des hectares cultivés de manière intensive seulement une céréale ou une plante, c'est très nocif pour la terre. Et en plus, après, une fois que ces denrées-là ont été cultivées, leur transformation, les processus de transformation sont très énergivores. Et en plus, vu que c'est une logique qui est internationale et qu'on est toujours sur les coûts les moins chers, il vaut mieux produire à l'autre bout du monde. Et donc, ça nécessite ensuite des transports. L'impact du transport est aussi très important sur les produits ultra-transformés. Les sirops de glucose-fructose ou les protéines de soja, par exemple, sont rarement faites en France. Donc, tout ça, ça montre que l'impact sur l'environnement est conséquent. Mais également, il y a un impact qui est fort sur la culture locale, également sur les cultures paysannes locales. Ça, on l'a vu pas mal en Amérique latine. Comme l'a dit Anne-Cécile, le Brésil fut un premier pays où on s'en est rendu compte. Le Mexique, où il y a un fort taux d'obésité également, et où la culture locale traditionnelle, donc que ça soit agricole, mais également après la cuisine locale, a été fortement impactée, puisque le développement de la malbouffe, donc c'est forcément les produits ultra-transformés, ça engrange la standardisation des goûts. Les gens préfèrent manger au final des produits qui sont plus simples, plus faciles à consommer, qui ont un goût plus attractif en sucre, avec beaucoup d'arômes, qu'une cuisine plus traditionnelle et locale. Eh bien, ça impacte à la fois les cultures locales qu'on va délaisser et également aussi les petites entreprises locales qui ne peuvent pas concurrencer par rapport aux industries agroalimentaires. Il y a vraiment là-dessus au niveau, ça peut-être qu'Anne-Cécile pourra nous en parler, notamment avec les pâtes, il y a une concurrence qui est presque déloyale entre un gros producteur agro-industriel et un producteur artisanal qui n'a pas forcément les process industriels permettre de mettre des ingrédients ultra transformés dans ces préparations. Et le coût derrière, l'impact sur le coût se ressent sur le produit. Parce que le but aussi, c'est de produire moins cher. Mais forcément, si on met des produits bruts, ça coûte beaucoup plus cher que de mettre des arômes ou des ingrédients ultra transformés issus du cracking, etc. Donc, il y a vraiment un impact qui est fort à la fois sur l'environnement, mais aussi sur la culture locale et sur le développement économique et agricole local.
Et je voulais revenir sur le prix des produits, l'impact financier que ça a. On pourrait penser que l'ultra-transformation pourrait coûter cher parce que c'est beaucoup de procédés, mais finalement, comme c'est des procédés industriels, peut-être que c'est ça qui permet justement d'avoir ces produits ultra-transformés à très bas coût. Est-ce que c'est l'explication ?
Oui, il y a les économies d'échelle également, vu que c'est produit en très grande quantité. Et bien sûr, le fait que c'est produit aussi dans des pays où on peut permettre ces monocultures intensives, eh bien, ça permet de diminuer les coûts fortement.
Anne-Cécile, toi, on vient de l'évoquer, on l'a évoqué tout à l'heure aussi. Tu es fondatrice de Pasta Durance, donc tu produis des pâtes qui sont des produits transformés finalement. Camille vient d'en parler. Quel est l'impact, toi, que tu ressens sur ta production et ta vente ?
Alors, bon, c'est vrai que, en étant réaliste, dans les pâtes, il n'y a pas vraiment d'ultra transformation, à part sur les plats cuisinés. Mais je pense quand même que les consommateurs de pâtes qui veulent acheter des pâtes, ils vont rester sur des pâtes brutes. Et en principe, il n'y a pas plus que de la farine, de l'eau et des poudres, comme moi, je peux utiliser des poudres de légumes, de plantes aromatiques ou d'épices. Je pense que après, oui, comme tu disais Camille, il y a cette logique de gros industriel qu'on ne peut absolument pas concurrencer en tant que petit producteur en termes de tarifs, ça c'est évident.
Je pense que il y a quand même des différences sur les choix d'ingrédients de base. Toi, par exemple,
oui,
tu n'utilises pas forcément des farines très raffinées, ce n'est pas ton but.
Voilà, par contre, après, sur la qualité et la valeur nutritionnelle des ingrédients de base utilisés, ça, c'est vrai qu'il y a une vraie différence. Et c'est là-dessus que moi, j'essaie beaucoup d'appuyer parce que mon projet, il est parti vraiment d'une volonté de proposer aux personnes, aux clients, des produits qui ont une vraie valeur nutritionnelle, qui ont un moindre impact sur la santé des gens. Parce que finalement, tout le monde se pose la question du gluten. Est-ce qu'on peut en manger ? Est-ce que c'est nocif ? Oui, non, les pâtes, comment les manger ? À quelle fréquence ? Il y en a pour qui c'est des vraies habitudes alimentaires consomme quasiment au quotidien les pâtes. Et moi, j'avais vraiment dans cet esprit de vouloir justement sortir de la pâte classique raffinée, en effet, comme tu dis, Camille, qui, on le sait, ne favorise pas la satiété, qui souvent, bon, c'est des blés qui ont été manipulés génétiquement pour des questions de rentabilité, d'économie, etc. Et qui, du coup, sont très, très riches en gluten, qui sont parfois mal tolérés par les gens qui soient sensibles ou non au gluten, mais qui, à terme, en tout cas, peuvent provoquer ces sensibilités-là. Donc, je suis sûre... Là, oui, par contre, là, je suis sûre, en effet, tu as raison, je suis sûre des produits complètement différents.
Exactement, et tu parlais des blés. Toi, tu utilises des blés anciens aussi.
Oui, dans l'idée, je souhaitais principalement utiliser des blés anciens. Petit à petit, j'y arrive avec, grâce aux différents partenariats que j'ai réussi à mettre en place. J'utilise essentiellement le petit épeautre qu'on connaît tous maintenant, qui est cultivé depuis des millénaires et beaucoup cultivé dans le sud de la France, qui est très intéressant parce que, d'une part, bon, déjà, il possède moins de gluten. Il a 7% de gluten contre en moyenne 14% pour des blés classiques. Et comme c'est un blé ancien qui a été très peu manipulé, comme je disais précédemment, eh bien, du coup, il est quand même beaucoup mieux toléré. Il y a beaucoup de gens qui sont sensibles au gluten, qui tolèrent très, très bien que ce soit le pain ou les pâtes au petit épeautre. Et en plus, il a des protéines qui sont très, très bien assimilables, puisqu'il possède les acides aminés essentiels qui sont importants pour arriver à synthétiser les protéines et bien les assimiler. Donc, je trouve que c'est un blé qui est vraiment très intéressant. Puis en plus, il a un goût fantastique. Moi, quand je le produis, j'adore mettre les mains dans la farine de petit épeautre. Ça sent le chocolat dans mon atelier. Comme j'adore le chocolat, ça va bien. Et l'autre blé que j'utilise beaucoup, et je suis contente parce que je commence vraiment à avoir des gens qui ont pris l'habitude de les consommer également, c'est le courasan. Donc le courasan, on l'appelle aussi le camut. Alors ici, à Gap, je sais qu'il y a pas mal de boulangers qui utilisent dans les pains bio et donc on le connaît bien par chez moi aussi. Des fois, il faut pousser un peu l'information pour que les gens ils aient envie d'aller vers ce produit-là. Mais donc, c'est un blé qui, lui, est encore plus intéressant d'un point de vue des protéines. Il a beaucoup de protéines. L'année dernière, le moulin qui me fournissait, donc le Corazan, qui vient du sud de la France aussi, hein, il était, le taux de protéines était à 20%. Donc, ça en fait un blé qui est très intéressant à la fois pour les sportifs, pour les végétariens, mais aussi tous ceux qui sont soucieux de justement de consommer des produits qui soient intéressants pour la satiété. Moi, souvent, les gens me disent qu'ils n'ont pas le besoin de manger autant de pâtes qu'avant en mangeant mes pâtes parce que, justement, il y a cette satiété intéressante. Et il a moins de gluten également que... Je n'ai jamais trouvé le pourcentage, mais il aurait à peu près un pourcentage équivalent à celui du petit épeautre.
Donc, des blés qui sont peut-être assez rarement utilisés dans les pâtes industrielles et qui sont malgré tout intéressants.
Un peu moins. Alors, le petit épeautre, quand même, maintenant, on en trouve assez facilement. À distinguer des pâtes au grand épeautre, hein, ça n'a absolument rien à voir. Mais par contre, oui, les pâtes au corazon, c'est un peu plus rare. Puis moi, je les utilise aussi beaucoup avec d'autres... par exemple, les pâtes au corazon, je les fais aussi avec de la spiruline, donc qui est très riche également en protéines. Alors, ça me fait des pâtes que j'ai classées dans ma gamme pour les sportifs, justement, qui sont très, très intéressantes pour les apports en protéines.
Donc, effectivement, tout l'intérêt des micronutriments et des macronutriments dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Camille, avant qu'on passe à la suite, je voulais revenir, malgré tout, tu parlais de l'impact sur les productions, aussi bien chez les producteurs, chez les agriculteurs. Est-ce que toi, qui es en lien avec beaucoup de producteurs, donc on en a parlé avec Anne-Cécile, mais est-ce que toi, tu as eu d'autres échos qui rejoignaient ces impacts-là dans les Hautes-Alpes de producteurs qui font face à des produits ultra transformés qui ont du mal à faire face à cette concurrence?
Eh bien, je pense par exemple tout ce qui est les sirops, un sirop de fruits, un sirop qu'on va mettre dans son eau pour aromatiser son eau. Là, il y a les producteurs locaux souvent peuvent pas du tout concurrencer même un producteur français, parce que chez nous on n'a pas des grosses on n'a pas des gros producteurs agro-industriels, hein, même s'ils peuvent livrer toute la France en produits bio. Les sirops, par exemple, c'est quand même majoritairement des ingrédients issus de l'ultra-transformation, que ce soit les arômes, le sucre contenu et les colorants également. Et nos producteurs locaux ont beaucoup de mal à rivaliser avec ces produits-là. Et même aussi en termes d'ingrédients, par exemple, en France, aujourd'hui, trouver de la purée de fruits rouges, souvent, elle n'est pas du tout produite en France parce que les producteurs n'arrivent pas à rivaliser avec des productions qui sont beaucoup moins chères, qui viennent d'ailleurs. C'est toujours pressuriser les producteurs, en fait. Donc, majoritairement, quand on achète un produit à base de purée de fruits rouges, des confitures ou des sirops, ou même dans des préparations, dans des yaourts et compagnie, eh bien, ça vient des pays de l'Est. Très rarement, on peut avoir un produit 100% français. Et c'est pour ça que, par exemple, des confitures aussi, on voit la différence de prix entre une confiture artisanale, dont la production est faite par les producteurs eux-mêmes, donc qui sont à la fois fermiers et transformateurs, parce que la production est française et ça n'a rien à voir en termes de prix.
Donc effectivement, en plus c'est fou parce qu'on n'imaginerait pas qu'une confiture puisse être un produit ultra transformé. On se dit que c'est un procédé simple de fruits, de sucre, une cuisson et voilà. Et finalement, on se rend compte que ça peut aussi être concerné. Et justement, maintenant qu'on a fait tous ces constats, est-ce qu'il y a des astuces pour identifier les produits ultra transformés? Comment est-ce qu'on peut les reconnaître?
Un des premiers conseils les plus faciles, c'est déjà de regarder le dos d'une étiquette. Le moins il y a d'ingrédients, le mieux c'est déjà. Et s'il y a des ingrédients qu'on ne comprend pas et qu'on se dit ça ne sera jamais, je pourrais jamais l'avoir dans le placard de ma cuisine, déjà ça pose question. C'est déjà le tout premier conseil. C'est vraiment se dire si moi est-ce que j'aurais ça dans ma cuisine et pour faire ce produit, si je devais le faire moi, est-ce que j'utiliserais autant d'ingrédients?
Donc, ça fait déjà beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Anne-Cécile.
Oui, je suis vraiment d'accord avec toi, Camille. Moi, c'est vrai que j'incite beaucoup les patients que j'ai en rendez-vous diététique, vraiment de lire les étiquettes, d'arriver à les décortiquer. Et en fait, moi, ce que je leur dis souvent, c'est si vous voyez qu'il y a plus de 5 ingrédients et qu'il y a en plus des additifs, des E150, E320, etc., eh bien là, déjà, vous avez déjà des éléments pour savoir que ce sont des aliments ultra transformés et que ce n'est pas forcément vers ces produits-là qu'il faut aller. Et en effet, tous les ingrédients qu'on ne connaît pas, dès qu'on voit sirop de glucose, fructose, isolat de protéines de soja, en effet, comme tu disais, Camille, c'est pas forcément ce qu'on va avoir dans notre placard. Ça, il faut les éviter. Moi, je conseille aussi beaucoup d'éviter tout ce qui est sucre ajouté, édulcorant. C'est évident, donc des fois, c'est un peu masqué, c'est sous des noms pareils, maltodextrine, dextrose, sirop de maïs. Ça, c'est à éviter. Je pense que c'est important aussi de choisir des produits où il y a des corps gras de qualité, notamment dans les huiles, plutôt huile de colza, tournesol, éviter l'huile de palme. Ça me semble intéressant aussi, notamment dans les biscuits pour enfants, il y en a beaucoup, souvent. Aller plutôt vers des corps gras de qualité, ou pourquoi pas le beurre, la crème, voilà. Peu ou pas d'additifs. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps, ça semble pas parfois complexe, mais il me semble quand même primordial de revenir de plus en plus vers des aliments bruts, cuisiner les fruits, les légumes, les céréales complètes, les viandes non transformées. À la maison, avec des recettes simples. Il ne faut pas se dire qu'on va faire un bœuf bourguignon toutes les semaines, mais ne serait-ce que transformer ces petits légumes, on met tout ça dans une cocotte minute, un cuve vapeur, et après on les utilise au fil des jours. Des petites astuces comme ça, cuisiner soi-même, encourager les enfants à cuisiner avec vous pour qu'ils prennent l'habitude, qu'ils soient sensibles justement à la manipulation de ces produits bruts.
Et si je peux me permettre, vas-y. Ça peut même être assez simple et meilleur pour le porte-monnaie. Par exemple, pour les goûters des enfants, on en parlait justement, au lieu de leur donner des biscuits tout faits, rien qu'un morceau de pain avec un morceau de chocolat dedans ou un morceau de pain avec de la confiture, déjà, ça c'est beaucoup plus sain et meilleur même pour eux et rassasiant que des biscuits industriels. Et c'est beaucoup moins cher.
Oui, ça, je suis assez d'accord. J'ai pris, d'ailleurs, je vous ai amené aujourd'hui des petites barres de céréales que je me suis amusée à faire maison parce que je suis allée voir, je suis allée faire un petit tour. J'ai voulu prendre des barres de céréales pour mon fils qui fait du sport. Et j'ai étudié les ingrédients et je suis tombée sur une boîte qui était tout à fait classique, que même moi, j'avais l'habitude de manger quand j'étais plus jeune. Il y avait 28 ingrédients et je crois qu'il y avait une dizaine d'additifs dedans. Donc, je me suis amusée à faire les barres de céréales et finalement, ça m'a pris 5 minutes, 20 minutes de cuisson. Mais les 20 minutes de cuisson, on peut les utiliser à faire autre chose en parallèle. Et vous goûterez, le résultat, il est pas mal. Alors certes, on ne le conservera pas des mois dans le placard, mais ça semble intéressant. Il y a 5 ingrédients dedans. Voilà. Et moi, la dernière chose que je voulais dire sur les petites astuces aussi, et ce qui me semble intéressant... Et c'est de favoriser aussi un maximum le vrac, les circuits courts et acheter dans certains magasins, alors que ce soit les magasins bio comme la Biocoop, les magasins de producteurs, en tout cas choisir des produits locaux moins transformés qui ont aussi le souci d'utiliser moins d'emballage, qui réfléchissent à ce qui a un moindre impact écologique. Voilà, ça me semble être aussi intéressant.
Alors, il y a juste une chose que je voulais repréciser. Tu parlais, Anne-Cécile, oui. Des corps gras de qualité. Oui. Comment est-ce qu'on les reconnaît quand on s'y connaît pas, justement ?
Déjà, donc, ce que je disais, c'est que dans les huiles, c'est intéressant d'aller plutôt sur des huiles issues de cultures locales. L'huile de palme, on sait qu'aujourd'hui, c'est vivement critiqué. Je pensais notamment, quand je parlais du beurre, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de margarine qui sont hydrogénées, donc c'est pareil, qui ont subi des transformations importantes et qui sont nocives plus qu'autre chose pour la santé. Ça, c'est des matières grasses qu'il faut éviter. À ce moment-là, en effet, il vaut mieux prendre du beurre. Voilà, du coup, essentiellement...
Donc plutôt du local et à nouveau, encore une fois, avec le moins d'ingrédients possible. Finalement, du beurre, on est censé avoir seulement du lait et éventuellement un peu de sel si on est breton. Mais a priori, c'est tout. Et il y avait une autre chose sur laquelle je voulais rebondir avant de continuer, c'était le fait que c'est du coup ça semble assez impressionnant. Ça concerne beaucoup de produits de consommation, puisqu'il y en a beaucoup qui ont des listes interminables d'ingrédients. Est-ce qu'il y a quand même des manières quand même de différencier un qui serait un peu meilleur que l'autre, peut-être en ayant recours à l'application dont tu nous parlais tout à l'heure, Anne-Cécile, ou est-ce que finalement, dès qu'il y a plus de 10 ingrédients, c'est niet, quoi?
Je crois que quand même, se fier à la nature des ingrédients, c'est quand même pas mal. Après, on peut aussi éplucher la valeur nutritionnelle, hein, voir la proportion d'acides gras, dont notamment les acides gras saturés. Mais déjà, si on a appris à justement identifier les différentes huiles, le beurre, ce qui va plutôt apporter des acides gras saturés et saturés, ça déjà, on peut avoir, ça peut nous aiguiller. La quantité de sucre, notamment simple, hein, ça me semble important de l'étudier. Et comme je disais au début, c'est vraiment la nature des ingrédients. Aller identifier que ce soit plutôt des céréales qui soient complètes, qui apportent du coup des fibres, qui favorisent la satiété, etc. Donc déjà, bien, en effet, apprendre à identifier les ingrédients et puis et ceux qui sont incompréhensibles, encore une fois, les écarter.
C'est plutôt mauvais signe en général. On parlait justement de cuisiner, on parlait de vrac, d'acheter des produits peut-être différents. Il y a une réalité qui est celle du porte-monnaie des gens et du temps des gens. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour s'adapter à ça? Par exemple, est-ce que Camille, à la Biocoop, il y a des propositions chez les distributeurs pour proposer justement des alternatives?
Oui, alors chez Biocoop Le Grenier, donc le sujet de l'ultra-transformation pour nous, c'est d'abord pour diminuer les produits ultra-transformés, on a fait le choix déjà de renforcer, de développer l'offre de produits locaux. Mais produits locaux, ça peut être aussi issu de productions agro-industrielles qui sont proches. Et du coup, nous, on a un œil là-dessus, on regarde, on visite les producteurs, notamment les transformateurs, pour voir s'ils jouent le jeu ou pas, la qualité de leurs produits et tout ça. Donc, on a certains producteurs qui nous sollicitent, mais qu'on ne souhaite pas avoir dans nos rayons. Et après, au niveau de Biocoop, donc le réseau Biocoop au niveau national, ils ont passé au crible 450 produits à marque Biocoop. Et sur une centaine de références, ils ont vraiment fait un focus fort pour diminuer l'indice d'ultra-transformation. Donc, il y a bien sûr la charcuterie, vu que les sels nitrités, c'est un enjeu qui est important. Donc, faire des produits sans sels nitrités, parce qu'ils sont quand même présents, les nitrites sont quand même présents naturellement dans la charcuterie, mais l'ajout de sels nitrités, c'est surtout un enjeu de conservation et ça permet aussi, au niveau marketing, de garder un produit qui a l'air rose pendant plusieurs semaines après l'achat. Chez Biocoop, on essaye de le réduire en enlevant les sels nitrités. Donc, bien sûr, l'aspect est forcément un peu moins joli, mais le goût n'en est pas changé. Il y a également un produit dont j'ai déjà parlé, c'est les confitures. Les confitures, en fait, dedans, il y a un ingrédient ultra transformé, donc c'est la pectine. La pectine, à la base, c'est présent naturellement dans beaucoup de fruits, et notamment dans les pépins. Mais ça existe aussi sous forme d'une poudre blanche, qui est souvent issue de la pomme, et c'est une fibre qu'on a isolée de ce fruit, donc via des processus industriels d'ultra-transformation. Elle permet en fait d'obtenir une texture plus gélatineuse, et non pas un coulis de fruits. Et ça, c'est notamment pour un gain de temps sur tous les processus industriels, parce que les fruits qui sont utilisés dans les confitures, comme je l'ai déjà dit, ils viennent souvent de loin et ils ne sont pas récoltés à maturité. Et donc, dans les recettes industrielles, la pectine, ça permet, c'est un additif alimentaire qui permet justement d'avoir du gain de temps et de pallier au manque de pectine prévues, qui sont naturellement dans les fruits. Et donc voilà, chez Biocoop, pour justement éviter d'avoir de la pectine, eh bien, on a allongé le temps de cuisson et le choix des matières premières. C'est ça vraiment l'enjeu, hein. C'est de se rapprocher des cuisines, des recettes traditionnelles, comme nous, on fait notre confiture chez nous. Donc, c'est prendre le temps et avoir des produits de meilleure qualité de base. et ça fait un produit qui est meilleur et sans ajout d'ultra transformation. C'est également le cas dans plein d'autres produits. On voit des fois des arômes naturels dans les yaourts. L'arôme naturel, forcément, on se dit comment ça a été extrait d'un fruit ou d'un légume. Eh bien, ça a été ultra transformé. Pour pouvoir l'extraire, c'est beaucoup de procédés industriels. Et l'éviter en mettant du fruit pur, c'est ça la solution. Ça fait forcément des coûts qui sont plus importants, mais à la fin, le produit en est meilleur.
C'est amusant, tu parles d'arômes naturels. Nous, en tant que consommateurs, on lit naturel, on se dit chouette. Encore une fois, on se dit super, il y a marqué naturel, donc c'est bon. Et alors en fait, pas forcément justement, ça peut aussi être ultra transformé. Donc garder cette vigilance là-dessus quand on achète nos produits. Je l'évoquais tout à l'heure, donc on a parlé ensemble des astuces. En fait, finalement, c'est surtout essayer de partir au maximum des produits bruts et de les cuisiner soi-même. Et puis sinon, de faire très attention aux étiquettes. Malgré tout, il y a la réalité de certains foyers qui ne peuvent pas toujours se permettre ces choses-là, ou du moins pas à l'échelle qu'ils souhaiteraient. Finalement, c'est peut-être pas éliminé complètement parce que ce n'est pas forcément réaliste pour tous et toutes. Mais surtout le limiter, en fait.
Oui, tu as raison. Et moi, je voudrais revenir sur l'aspect, en effet, économique. Tu demandais quelles pouvaient être les solutions, parce que c'est vrai qu'il y a une réalité de budget, hein, ça, c'est évident. Camille n'en a pas parlé, mais chaque année, à la Biocoop, je sais parce que je suis sollicitée en tant que productrice, ils font des opérations sur le vrac. Et je trouve ça intéressant. Donc c'est tout, je crois pas me tromper, mais je crois que c'est tout le réseau qui fait ça, hein, à la rentrée de septembre, je crois.
Ouais, c'est ça, on fait deux fois dans l'année, en septembre, justement pour avoir une rentrée, pour pas trop, enfin d'essayer de limiter les coûts, et aussi au mois de mars, qui est le mois du zéro déchet.
Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que moi, par exemple, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je suis sollicitée en tant que productrice, pardon, pour que moi aussi, de mon côté, je fasse un effort pour vendre à moindre coût au magasin, puisque sur cette opération, il y a, je ne sais plus, c'est moins 10%, quelque chose comme ça. Donc, je trouve que c'est intéressant. Il faut profiter de ces opportunités-là. Aller, comme je disais, vers le vrac, parce que moi, je le vois pour mes pâtes. Hein, à la Biocoop du Grenier, justement, elles sont en vrac. Si vous comparez le prix au kilo, si vous achetez un paquet et si vous l'achetez en vrac, c'est vraiment intéressant. Et après, c'est vrai que, encore une fois, si on revient sur des aliments de base, les fruits, les légumes, le porte-monnaie, on doit pouvoir quand même s'y retrouver. Dans les magasins bio, mais pas que, hein, il y a aussi parfois des invendus et qui ne sont pas forcément de mauvaise qualité. Hein, et je crois qu'il ne faut aussi pas hésiter à aller vers ça. Moi, les pâtes, par exemple, quand j'ai des pâtes qui sont de forme imparfaite ou de couleur imparfaite, je les vends via l'application Too Good To Go. Et je crois qu'il faut pas avoir honte d'utiliser aussi ces petits moyens-là, d'accéder à certains produits à des prix moins coûteux. Et puis aussi, je pense que c'est pas mal d'aller vers les produits surgelés. Les légumes, par exemple, quand on n'a pas le temps de les cuisiner, on peut aussi très bien les acheter en surgelé, et on sait qu'il y a dedans, il y aura beaucoup moins de conservateurs, d'additifs, parce que la surgélation joue ce rôle-là.
Que les boîtes de conserve, justement.
Exactement, exactement. Donc ça, c'est aussi une petite astuce qui peut être intéressante et qui, financièrement, n'aura pas forcément un gros impact.
Et puis, tu viens de le redire, et Camille, tu en parlais tout à l'heure, effectivement, le fait de cuisiner, Camille, tu donnes l'exemple de la tartine toute simple avec la confiture ou le chocolat plutôt que les gâteaux industriels, ça peut aussi, effectivement, avoir des impacts aussi bien sur la santé que sur le porte-monnaie des consommateurs et consommatrices. Oui. Avant de terminer, Anne-Cécile, tu as amené un livre qui pourrait peut-être donner des ressources aux éditeurs et auditrices.
Oui, alors j'ai retrouvé ce... Alors, c'est le collectif La Nutrition qui éditait ça. Alors, malheureusement, je pense qu'ils ont arrêté de le faire, puisque j'ai trouvé une dernière version qui datait de 2022. Mais ça s'appelle « Le bon choix pour vos enfants ». C'est les meilleurs aliments de 0 à 16 ans. Et en fait, c'est assez bien fait, puisque ils expliquent beaucoup justement les enjeux de l'ultra-transformation. ils apprennent à décrypter tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les étiquettes, la composition, les informations nutritionnelles, les additifs et différentes substances. Et après, ils comparent beaucoup de produits transformés. Alors, ils insistent, là, c'est celui pour les enfants, donc ils insistent beaucoup sur tous les produits à destination des enfants, des bébés, enfants, mais tous les jus, tout ce qui est dans les rayons surgelés, les laits, tous les biscuits pour enfants, les biscuits pour les apéritifs, etc. Donc, c'est assez intéressant. Voilà.
Donc, il y a des ressources disponibles et surtout compréhensibles, parce que c'est ce qui semble assez important pour les auditeurs et auditrices. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin. Anne-Cécile et Camille, est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot avant qu'on se salue ?
Eh bien, que l'enjeu là-dessus, c'est bien sûr essayer de trouver un compromis entre son porte-monnaie, ses envies et les bienfaits pour la santé. Et c'est quand même possible de se faire plaisir et de trouver des compromis qui soient sympas et qui font plaisir à toute la famille, surtout.
Ça n'est pas forcément faire une croix sur des plaisirs, et que ça peut sembler un effort au premier abord, mais finalement, ça peut être bénéfique sur beaucoup de points, comme on vient de le développer ensemble. Bien, écoutez, Camille, Danelle et Anne-Cécile Perronel, merci à toutes les deux pour votre présence dans cette
merci
émission.
Beaucoup.